L'art en partage. Aujourd'hui, nous recevons Christine Dabadie-Fabreguette. C'est une artiste. Elle a travaillé comme assistante sociale, puis en tant qu'animatrice en art plastique dans le monde associatif et est devenue conseillère technique et pédagogique auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports en 1973 et a continué à créer des œuvres à partir d'un maître qu'elle a rencontré. Aujourd'hui, elle fait partie du catalogue L'art en partage. L'art en partage a cette particularité de venir exposer des œuvres dans le studio de Fréquence Mistral, enfin dans les locaux de Fréquence Mistral. Donc on en profite pour interviewer la présidente et puis aussi la présidente de L'art en partage et puis aussi l'artiste du jour, Christine Dabadie-Fabreguette. Bonjour Frédéric Marcillet.
Bonjour James.
Frédéric, aujourd'hui, quel est donc l'artiste que tu nous proposes, que tu nous exposes ?
Eh bien, c'est Christine donc Dabadie-Fabreguette qui arrive de Brande, donc elle vient de faire beaucoup de route, qui a participé à la dernière exposition pendant les correspondances des livres d'artistes et dont la particularité est de travailler la calligraphie. Donc elle est venue...
On en parlera tout à l'heure.
Voilà.
En tant que présidente de l'art en partage, tu peux nous rappeler un petit peu le fonctionnement de cette association ?
Eh bien, participent à notre aventure les artistes qui adhèrent au projet et qui trouvent ça sympathique et qui nous confient des œuvres. Nous commençons à en acheter quelques-unes, mais timidement. Afin que des particuliers, des entreprises, des associations puissent les avoir sur leur mur, en profiter et les regarder un peu autrement que s'ils allaient juste à une expo.
C'est une invitation d'une œuvre chez soi.
Exactement, un peu comme ce que vous faites ici à Fréquence Mistral, puisque nous avons une convention qui nous permet de le faire.
Et en fait, même les particuliers peuvent aussi...
Bien sûr, il y a d'ailleurs surtout des particuliers pour l'instant.
Alors vous retrouverez tous les liens qu'il faut pour vous contacter sur le site de fréquencemistral.com pour qu'on puisse vous contacter, éventuellement inviter une œuvre et un artiste par la même occasion chez soi.
Exactement.
Bon, inviter une œuvre chez soi, c'est le but. Et puis, c'est aussi tout un tas d'événements que l'art en partage organise. Bon, là, au niveau des correspondances, il y avait donc
les livres d'artistes.
Et tout au long de l'année, il se passe des choses.
Oui, plus ou moins nombreuses. Mais c'est vrai que la dernière exposition avant, c'était des photographies lors du festival des Nuits de la photographie de Pierre Vert, par exemple.
Est-ce que vous faites des expositions en dehors des gros événements qui se passent dans la région ?
Ça peut arriver. C'est plus compliqué. On en a fait une l'an dernier pour les 10 ans, pour fêter les 10 ans plus un, Covid oblige, de l'art en partage. Mais voilà, c'est pas fréquent, c'est pas régulier. Ça dépend un peu de l'actualité des artistes, de leur disponibilité, de la disponibilité des salles. Mais on essaye qu'il y ait au moins une ou deux expositions par an. C'est une façon de remercier aussi les artistes qui nous font confiance, qui nous confient leurs œuvres gracieusement. Il faut le souligner, c'est quelque chose qu'on peut saluer.
Regarder, emprunter, acquérir, tel est le slogan que je lis sur un flyer.
Oui, ce qui veut dire que si on s'attache à une œuvre, l'artothèque ne vend pas l'œuvre, mais met en rapport l'amateur et l'artiste en question qui peuvent s'arranger. Et quelques œuvres ont déjà été vendues comme ça, oui.
Alors, l'artiste en question aujourd'hui, c'est Christine Dabadie-Fabreguette. Bonjour Christine.
Bonjour James.
Christine Dabadie-Fabreguette, vous avez un parcours particulier, on va dire atypique. Vous commencez comme assistante sociale.
Oui, c'est un métier comme un autre.
Oui. Et comment on passe d'assistante sociale à artiste et conseillère au ministère de la Jeunesse et des Sports ?
Le travail d'assistante sociale et la formation, ils sont venus bien longtemps après l'implication dans le travail artistique. J'ai toujours dessiné et j'ai toujours, pour une raison que je ne connais pas, été fascinée par l'art extrême oriental. Et voilà. Et donc, c'est un choix personnel d'avoir un métier en dehors et d'avoir la liberté d'aller comme je veux dans l'expression artistique sans être obligé de gagner ma vie avec.
Pas facile de gagner sa vie.
Et non,
son
c'est
art.
Très difficile.
Très difficile.
Et donc, voilà. Donc, j'ai ensuite, participant à des activités d'association, j'ai rencontré des collègues du ministère de la Jeunesse et des Sports et je suis donc devenue conseiller technique et pédagogique en art plastique. Voilà, je dirais que le travail de service social est un travail auprès des autres, le travail d'animation aussi, et comme j'avais en plus cette possibilité de partager ma propre recherche artistique, je trouvais que ça marchait bien ensemble, quoi. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre influence ? C'est-à-dire, vous avez fait une rencontre qui vous a marqué, vous avez rencontré un maître.
Oui. Donc, j'ai eu la chance, par une amie, de faire la rencontre de Hugnaut Lee, qui était un maître coréen, arrivé en France à la fin des années 50, et qui a créé, avec Vadim Elisseev, qui était alors conservateur du musée Tchernouski à Paris, l'Académie de peinture orientale de Paris. Voilà, et donc j'ai commencé à travailler avec lui surtout à partir de 1970, c'est pas hier. Et puis, une fois qu'on est tombé dans l'encre, c'est foutu, on peut plus en sortir. J'ai continué à travailler avec lui pendant longtemps, j'ai organisé aussi des stages avec lui et sa femme et son fils qui sont aussi des artistes calligraphes et peintres. Et puis en 85, il m'a dit maintenant il faut enseigner. Donc voilà, j'ai aussi pris ce chemin de l'enseignement qui était tout à fait proche de celui que je menais déjà. Voilà.
Vous avez enseigné, vous avez transmis.
Voilà, oui.
La calligraphie aussi.
Ça me paraît très important. D'une part, j'ai transmis directement ce que j'ai reçu d'un maître peintre et calligraphe qui avait qui avait comme direction artistique, pour lui comme pour ce qu'il transmettait, de transmettre l'essentiel de la tradition, mais pour qu'elle fructifie en art contemporain, c'est-à-dire pas pour recopier des anciens maîtres, mais pour y trouver nourriture pour s'exprimer aujourd'hui personnellement.
Du coup, je rebondis parce que votre art, là, ce que vous me proposez, notamment les œuvres que vous avez déposées ici, on y voit la touche du calligraphe. Et puis, est-ce que c'est une technique mixte? Vous utilisez uniquement de l'encre? Y a-t-il de la peinture? Y a-t-il d'autres matières?
Alors, dans les œuvres qui sont ici, il y a uniquement de l'encre de Chine, c'est-à-dire de l'encre noire, et puis quatre pigments naturels qui sont amalgamés à la colle de peau comme le bâton d'encre de Chine et qui se diluent dans l'eau et se mélangent et tout ça. Voilà. Donc mon travail personnel est essentiellement fait avec ces matériaux et le pinceau chinois, disons, voilà, qui est tout à fait particulier aussi, qui permet de faire ce travail. Par ailleurs, j'ai utilisé d'autres matériaux, bien sûr, et ça peut m'arriver encore aussi d'utiliser d'autres techniques. Mais voilà, je suis plutôt... j'aime beaucoup ce travail avec l'encre noire et des couleurs qui sont des couleurs transparentes et qui, voilà, qui font chanter le travail.
Qu'est-ce que vous appelez faire chanter le travail?
C'est-à-dire que... je travaille parfois uniquement en noir et blanc, et même, oui, j'ai fait beaucoup de choses uniquement en noir et blanc, mais en même temps j'aime aussi la couleur et je trouve que parfois la couleur apporte quelque chose au rythme et à la construction que peuvent donner le noir et blanc. Voilà.
Dans la calligraphie, on exprime quoi?
Alors, je pense que ça dépend beaucoup de chacun, mais La calligraphie, qui est la base de la calligraphie extrême-orientale pour tous les pays de l'extrême-orient, c'est la calligraphie chinoise, donc qui utilise les idéogrammes chinois. Cette écriture, déjà en elle-même, est une association de dessins, une association de regards sur la nature. Et qui, les mots, les idéogrammes eux-mêmes, sont des espèces de tableaux ou de petits poèmes, ou je ne sais pas comment on pourrait exprimer ça. Voilà. Et alors, déjà, ça, c'est contenu dans l'idéogramme avec lequel on travaille. Et puis, cette écriture s'est déployée dans des tas de styles différents. Et donc, on a à sa disposition un réservoir de formes vivantes absolument inépuisables. Après, chacun les utilise un peu à sa façon. Moi, j'aime beaucoup travailler en écho à un poème, à une rencontre, à un paysage. Voilà. J'aime ce travail en écho, en réponse. Enfin, voilà. Et donc, en fonction de ce sur quoi je travaille, ici, j'ai amené des œuvres qui ont été faites qui font partie d'un long travail que j'ai fait à partir de la musique de Messiaen, parce que j'aime beaucoup cette musique. Voilà, et donc j'ai surtout travaillé les thèmes des oiseaux, et donc essayé d'exprimer ce qui me touchait dans cette œuvre. Voilà. D'autres fois, je travaillerai à partir du paysage, et voilà, j'ai aussi amené des œuvres qui sont faites à partir de l'œuvre poétique d'un poète coréen, qui était à la fois moine bouddhiste et qui a été un grand résistant pendant la guerre de la Corée avec le Japon, ou du Japon avec la Corée. Voilà.
Un Coréen qui est de l'époque de Thich Nhat Hanh, par exemple.
Un Coréen qui est en fait non du 19e siècle, 19e, 20e.
Ah oui, 19e, oui. 20e, d'accord.
Voilà.
Et donc, toutes vos œuvres sont inspirées à partir d'un message que vous voulez délivrer. Vous voulez partager.
Je ne sais pas si c'est vraiment un message, mais c'est partager ce que je reçois d'une musique, d'un poème, de la nature. Voilà. Je crois que c'est le fondement aussi de ce travail de calligraphie, c'est finalement de se laisser traverser par les choses, de les accueillir et de les laisser ressortir.
On va refaire une petite pause musicale avant de poursuivre cette entrevue bien agréable. On va refaire une pause avec justement cet artiste que j'ai découvert récemment, Abdullah Endergué, qui joue avec le trio d'Emmanuel Bex. Ça s'appelle Adjadj, l'âme du blues. C'est tiré de l'album L'âme du blues. On l'écoute et on se retrouve juste après pour la poursuite de cette entrevue. Je rappelle, L'Art en Partage, c'est une association basée à Volx qui a invité Christine Dabadi Fabregat. Allez, on fait une pause musicale avec Abdullah Endergué et on se retrouve juste après.
Hassam Malian Duhan, Larit Valan Rumat, Nagawen, Kanifakir Mortonia, Dumeni Warabeti, Albatabo Michelian, Hanun Lem, O Kamil Manak Darche. Thank you.
L'âme du blues, Abdullah Endergué, une petite pause dans l'entrevue avec Christine Dabadi Fabreguet et l'association L'Art en Partage. Lorsque vous nous avez parlé, bon, vous avez rencontré un maître qui vous a enseigné la calligraphie. Et à partir de là, vous avez développé votre propre style. Vous nous avez dit que vos sources d'inspiration personnelle étaient axées sur la nature, la poésie orientale, mais aussi occidentale, et d'un certain René Char, notamment. René Char, qui est de Céreste, qui n'est pas très loin d'ici. Vous m'en direz tant, René Char, qui vous inspire, et qu'est-ce qui vous a inspiré,
C'est difficile de dire avec des mots ce qu'on dit avec le travail pictural.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est une œuvre que j'aime aussi beaucoup. Et quand j'ai travaillé à partir de poèmes de Char, comme à partir d'autres poètes occidentaux, en fait, j'utilise des idéogrammes chinois qui me paraissent en résonance avec le texte. Et donc, je repars de la base calligraphique et j'essaye de... Souvent, sur un poème, je fais toute une série parce qu'il y a plein de choses dans un poème, plein d'images. Et j'essaie de les décliner en plusieurs œuvres. Voilà.
Le signe calligraphique... Calligraphique, c'est pas seulement une lettre, c'est un mot.
C'est un mot. En chinois, un mot.
Ça peut être un petit poème même.
En soi, c'est-à-dire en chinois, un mot, un son, un sens, voilà. C'est l'idéogramme, c'est à la fois ça, un mot, un son et un sens. Et parfois, cet idéogramme est composé de plusieurs idéogrammes plus simples. Pour aller de la chose jusqu'à l'idée, par exemple, ou à la sensation. Par exemple, si il y a un idéogramme simple qui dessine les céréales, par exemple. Et cet idéogramme, si vous mettez devant celui qui dessine le feu, vous avez écrit l'automne. Mais ça fait un seul idéogramme. Et si vous ajoutez encore sous ces deux éléments l'élément du cœur, vous avez un seul idéogramme, mais qui écrit la tristesse ou la mélancolie. Donc toute la langue fonctionne comme ça, par association d'images, et ces images arrivant l'association de ces images, exprimant une idée ou un sentiment, voilà. Et donc, quand on travaille un poème, on n'écrit pas directement tout ça, mais on est nourri par tout ça, et donc on utilise les idéogrammes, je ne sais pas, peut-être comme un musicien utilise des notes de musique ou des rythmes, ou je ne sais pas, pour écrire une partition. Je ne suis pas musicienne, mais bon.
C'est peut-être pour retraduire, pour reformuler.
Voilà, oui.
Eh bien, vous c'est surprenant parce qu'en fait, la plupart des gens qui vont voir vos expos, du moins en tout cas en France ou en Europe, donc ne sont pas forcément au fait de comprendre. Mm. Et donc ils ressentent votre œuvre comme ils doivent la ressentir, c'est un partage, quoi.
Tout à fait. De toute façon, mon idée n'est pas du tout de réécrire de façon lisible le poème. Ça, ils peuvent l'avoir en librairie.
Oui, bien sûr.
Mais voilà, donc... J'ai tenté d'exprimer ce que me disait cette œuvre, que ce soit une œuvre musicale ou poétique ou voilà, et voilà, ça a donné une image, et après chacun réagit en fonction de ça. Moi-même, quand je vais voir une exposition, il y a des choses qui me touchent, je sais pas tout ce qu'il y a derrière, mais peu importe, il y a des choses qui rentrent en résonance avec vous, et voilà, ça suffit.
Vous exposez en groupe ?
Oui, en groupe ou individuellement, ça dépend des occasions. Oui.
Et là, actuellement, votre actualité, c'est...
J'ai...
Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'actualité ?
J'ai exposé récemment, par exemple en juillet, avec un ami qui est sculpteur, et j'aime bien ce rapport entre la sculpture et la peinture. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois d'exposer avec des amis sculpteurs. Voilà. Et en ce moment, je travaille un peu sur deux choses. D'une part, un travail à partir de l'arbre, mais comment dire, l'arbre avec toute sa puissance chamanique d'ouverture sur un monde invisible. Je veux dire, voilà. Et puis aussi sur un texte chinois très ancien qui s'appelle le Yueling, qui est un texte calendaire qui explique pour chaque mois, ou qui raconte pour chaque mois quelles sont les étoiles qui sont au ciel, qu'est-ce qui se passe sur la terre, qu'est-ce qui pousse ou qu'est-ce qui meurt, et quelles sont les activités des hommes ce mois-là, et que doit faire l'empereur pour que tout ça vive en harmonie.
Tout un programme, c'est vaste, vous avez tout un monde à proposer, à partager.
Ben, comme ça me passionne, donc oui, j'aime bien le partager.
Il t'arrive aussi de faire des performances sur de la musique.
Oui, Marseillais qui.
Oui, sur de la musique ou sur. Alors, parfois, j'ai calligraphié en grand, oui, des poèmes que j'ai une amie qui connaît très bien le chinois ancien et qui chante en plus. Et donc parfois on a fait des performances à deux, c'est-à-dire elle chantait le poème et moi je le calligraphiais en même temps. Et puis d'autres fois ça a été avec un musicien, et ou cet été au mois de juillet, ben le sculpteur avec lequel j'ai exposé, qui s'appelle Luc Rouault, il est aussi poète, et donc on a fait aussi une improvisation entre ces textes et que j'ai calligraphié, dont j'ai calligraphié des morceaux, bien sûr, parce que la parole va beaucoup plus vite que le geste calligraphique. Voilà, c'est... Oui, j'aime bien faire ça aussi.
Oui, vous êtes aussi un artiste qui est dans la performance et le partage avec d'autres artistes.
Oui, le partage, oui, ça me paraît très important, avec d'autres artistes comme avec vous, personne, tout le monde. Mais... En même temps, l'improvisation, je n'aime pas trop dire performance, parce qu'en français, ça a un peu une coloration un peu...
Oui, je parle de performance artistique.
Mais hein, voilà, hein, oui. Et c'est assez proche, finalement, du geste calligraphique lui-même. De toute façon, on est dans la spontanéité quelque part.
D'accord.
Et donc, on travaille avec tous les jours, donc on peut aussi le partager d'une autre façon. Enfin, voilà.
Alors, on va parler de spontanéité. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur le fait que vous avez reçu un prix spécial de calligraphie lors de la Biennale internationale de calligraphie de Séoul en 2005.
C'est vieux ça. Oui, eh ben, j'avais été invitée en même temps que d'autres artistes qui ont suivi aussi l'enseignement de Noli. Et on avait été invité à participer à cette biennale. Bon, il se trouve qu'effectivement, j'ai eu un prix à cette biennale. Voilà, c'est pas...
ça informe aussi de la circulation de votre œuvre.
Ouais, ça m'a permis d'être invité à la biennale suivante. C'était
planète.
Sympa.
Et pour les mois qui viennent ou les semaines qui viennent, vous avez des dates de prévues ?
J'ai pas des dates. J'ai des travaux en cours, des projets que j'ai envie de mener
D'accord.
au bout, mais pour l'instant, j'ai pas de date.
Non. Que dire de plus ? On peut retrouver sur le site de Fréquence Mistral l'entrevue que nous sommes en train de vivre en ce moment. Votre site pour pouvoir aller visiter vos œuvres. Certaines de vos œuvres sont installées, accrochées sur les murs de Fréquence Mistral, ou vont l'être, puisque vous allez faire le travail juste après. Ça, c'est un projet qui a été mis entre l'art en partage et Fréquence Mistral. Tu peux peut-être
ajouter quelque chose.
Bon,
l'art en partage a aussi un dépôt. Enfin, oui, c'est
Frédéric
ça, un dépôt
Marcilly.
sur les murs de l'hôtel des Abbesses, de la médiathèque. Bon, on peut les emprunter. Le 15 octobre, on va faire un changement d'accrochage et il y aura une présence le samedi matin de l'artothèque pour expliquer, pour montrer. Voilà. Et après, comment on choisit les artistes qui viennent ? Ben, par exemple, pour Christine, je l'ai découverte lors des ateliers ouverts d'Avignon. Et puis, elle faisait une grande exposition avec des tas d'autres calligraphes en Avignon aussi. Et je lui ai proposé de participer justement parce que son travail avait une grande personnalité, plus que beaucoup de calligraphes dont on a l'impression qu'ils reproduisent quelque chose qu'on connaît déjà. Voilà. Je tenais à le souligner.
Voilà. Et bien, moi, je tiens aussi à souligner qu'on peut aller voir le catalogue de l'art en partage, puisqu'il y a sur le site de Fréquence Mistral,
voilà.
Juste en dessous le podcast, on a le site l'artenpartage.com où
oui.
vous avez tous les artistes que vous
voilà.
présentez.
On clique sur l'onglet œuvres et on a la liste de tous les artistes qui participent à notre aventure.
Voilà, le mot de la fin, le mot de la fin pour Christine Dabadi Fabreguet. Je vous laisse improviser.
Il n'y a pas de mot de la fin, c'est l'ouverture pour la suite.
C'est l'ouverture pour la suite.
Je suis toujours prête à rencontrer, à partager. Je trouve que c'est quand même un des plus beaux aspects de la vie.
Voilà. Un des plus beaux aspects de la vie. Et puis, ben, on va pouvoir voir vos œuvres ici dans les locaux de Fréquence Mistral Manosque. L'art en partage, l'artiste donc Christine Dabadi Fabreguet. Et puis, à la prochaine artiste ou le prochain artiste, on ne sait pas encore, de ce partage, de cette collaboration, l'art en partage et Fréquence Mistral qui ont conventionné ensemble pour pouvoir réaliser ce projet.
Merci, James.
Merci beaucoup pour ce bon moment.
Merci
et
à vous.
À très, très, très bientôt.